Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour votre libre antenne. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 1h du matin. Et à partir de maintenant, c'est votre parole, votre histoire qui va compter pour nous. Vous vous posez tout un tas de questions, vous ne savez pas vraiment quelle direction prendre. Vous n'osez pas vous lancer, que de questions restées sans réponse, que d'énergie dépensée pour rien. Alors que nous sommes là pour vous écouter et même pour vous conseiller si vous souhaitez, bien évidemment, être conseillé, quelle que soit votre histoire, si vous ressentez le besoin de prendre du recul, de vous libérer, nous sommes à votre écoute. Vous avez pris une décision que vous regrettez, vous n'osez pas rebrousser chemin et vous avouez que vous vous êtes trompé, vous ne savez plus comment faire, vous s'extirpez d'une situation devenue trop lourde, cette situation pour vous, et vous sortir de cette solitude, puisque à force de vous poser des questions, vous êtes resté un peu dans votre coin. Un membre de votre famille vous empêche d'avancer. Voilà des situations que vous pouvez vivre aujourd'hui, qui peuvent être votre quotidien. Nous sommes là pour vous écouter au 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Vous pouvez nous envoyer aussi vos SMS au 739-21. Suivi du mot « nuit », écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous écrire par mail à libreantenne@europe1.fr. Et puis, bien évidemment, nous rejoindre sur nos groupes de parole, Facebook, Olivier Delacroix, Sabine Marin, La Libre Antenne. Voilà, vous connaissez maintenant le chemin. Désormais, vous pouvez nous appeler dès maintenant, au 3921. Natacha, Florian et Jean-François sont là pour vous écouter, vous répondre. Cette Libre Antenne du lundi, c'est parti.
Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Paula au 3921. Bonsoir Paula.
Bonsoir Olivier.
Comment allez-vous Paula?
On va dire que ça va.
Bon. Alors, dites-moi, racontez-moi.
Alors moi, ce soir, c'est pour parler de tout ce qu'on entend en ce moment, surtout sur les violences faites aux femmes, sur les violences conjugales, tout ce qui devrait ne plus exister et qui malheureusement existe encore, qui est très tabou et que malheureusement rien n'est fait.
Vous avez vécu vous-même des violences conjugales ?
Oui, j'ai vécu pendant 9 ans avec un homme qui s'est avéré être un pervers narcissique et qui me battait. Et ma profession fait que j'ai pas su ouvrir les yeux. Et pourtant, je conseille tous les jours à des femmes qui viennent. Je leur dis qu'un homme qui lève la main une fois relèvera toujours la main une deuxième fois et après ça ne se terminera pas et jusqu'à ce que mort s'en suive s'il le faut. Donc voilà, je suis fonctionnaire de police et à tous les niveaux, dans tous les classes sociales, tout type de métier, toute personne peut se retrouver confrontée à ça.
Vous dites que vous recevez beaucoup de femmes, que vous-même vous les conseillez?
Oui.
Et que finalement vous n'avez pas su vous extirper de cette situation lorsque cela vous est arrivé ?
Non, et je comprends très bien qu'une femme ait honte de ce qui lui arrive, qu'elle ait peur d'en parler et qu'elle n'ose pas en parler et si elle ne se trouve pas face à la bonne personne, forcément elle fera marche arrière. Donc à l'époque, j'étais encore active entre guillemets. Donc je pouvais conseiller ces femmes, je les recevais, je pouvais leur donner les bonnes démarches à faire et jusqu'au jour où ça vous arrive à vous, ça vous tombe comme ça sur le coin de la figure et au fait vous vous dites mais moi aussi j'étais victime de tout ça et j'ai pas su le voir, j'ai pas su m'en débarrasser, j'ai pas su partir de cette emprise.
Quel profil avait votre ex-conjoint ? Il était dans le même corps de métier que vous ?
Oui, fonctionnaire de police aussi, oui.
D'accord. Et dans quelles conditions vous avez vécu ces violences ?
Ça a été a été psychologique au départ, après c'est devenu physique. Et on est tellement sous cette emprise que on n'arrive plus à le voir. J'étais différente, mais je m'en apercevais pas du tout. C'est les gens après autour de moi qui m'ont dit à quel point j'avais changé. Mais ça, c'est une fois que je l'avais qu'on s'était séparés. Et au niveau du boulot, c'est on n'en parle pas parce qu'on n'ose pas le faire, parce qu'on a honte de le faire.
Parce qu'on a peur de paraître faible, surtout lorsqu'on est fonctionnaire de police et qu'on vit ça chez soi.
Alors, on a peur d'être faible. Moi, j'avais peur de ne pas être entendue. Et c'est ce qui m'est arrivé, puisque j'ai déposé plainte. Et malheureusement, ça n'a pas abouti. Il m'a cassé les côtes. J'ai eu 10 jours d'ITT. Et j'ai eu un classement sans suite. Parce que pas de bruit chez nous, pas de tabou, pas de vague. Donc, on a éloigné ensuite le bourreau de sa victime. Donc, je pense que c'était moi le bourreau, puisque c'est moi qui ai dû partir à 500 km de ma famille et de mes amis. Et je me suis retrouvée seule dans une ville que je ne connais pas, dans une région que je ne connais pas, et où je n'ai aucun proche. Donc, pour moi, c'est pas normal. C'est pas à la victime de partir. C'est pas la victime qui doit partir, justement, pour s'éloigner de tous ses proches qui peuvent la reconstruire. C'est plutôt au bourreau de partir.
Qu'entendez-vous par le fait j'ai été éloignée vous étiez dans le même commissariat, tous les deux?
Oui, on travaillait ensemble.
D'accord. Donc, ce que vous entendez, c'est que la hiérarchie a plutôt choisi son camp et a décidé de vous envoyer dans une autre affectation?
Alors, c'est à la fois pour moi, c'était la hiérarchie, parce que c'était tellement plus simple. Moi, j'étais à la nuit, et lui travaillait en journée. Donc, lui, constamment, il était en train de pleurer dans les bureaux de la hiérarchie pour dire que c'était moi, la violente, la méchante, que je le menaçais de mort, que... Enfin, il n'y avait que des histoires comme ça. Et à la nuit, vous savez, c'est toujours les coupables, c'est ceux qu'on ne voit pas qui sont les coupables. Et comme je n'ai jamais eu tendance à me plaindre, forcément, c'est moi qu'on a accusé et c'est moi qu'on a éloigné. Donc, on nous dit que c'est pour nous protéger, mais je ne sais pas. Je ne sais pas trop si c'est vraiment pour nous protéger, parce qu'en même temps, on nous éloigne de tout.
Alors, vous avez vu qu'en ce moment, les choses bougent, hein, que des paroles se libèrent. Je pense notamment ces derniers temps au témoignage que vous avez peut-être entendu de cette actrice, de cette jeune actrice de 30 ans. Je n'ai pas retenu son nom, mais elle s'appelle Adèle Haenel, me souffle-t-on en régie. Oui. Les langues se libèrent de plus en plus. Et si je parle d'Adèle Haenel ce soir, c'est que j'ai regardé hier en podcast ce qu'elle disait, et elle parle de ce silence aussi. Elle appuyait énormément sur ce silence qui étouffe, hein, finalement, et qui rend malade, qui détruit. Est-ce que ça a été votre cas pendant longtemps, le fait de n'avoir rien dit et d'avoir pris des coups comme ça à la maison?
Mais je suis détruite, et le fait que la justice n'ait pas reconnu que j'étais victime, pour moi, je suis encore coupable. Tout ce qui me dit, tout ce qui t'arrive, c'est de ta faute. Si je m'en prends à toi, c'est de ta faute. Tu t'es bonne à rien. Enfin, je me sens encore coupable. J'arrive pas à guérir de tout ça, parce que pour moi, il n'y a pas eu de justice. Étant policière, c'est dur de dire ça, mais je ne crois pas en la justice. Mmh.
Quelle était son attitude avec vous? Décrivez-moi. Dans quel est-ce que vous parliez de pervers narcissique? Elle en sait ici que c'est un terme un peu générique, hein, qu'on emploie un peu pour voilà chaque homme qui essaie d'avoir le pouvoir, hein, d'imposer un pouvoir, un droit sur sa femme. Mais est-ce qu'il était jaloux? Est-ce qu'il vous critiquait, il vous empêchait de sortir? Comment était-il, ce conjoint?
Alors moi, le pervers narcissique, c'est pas moi qui l'ai décrit, c'est mon entourage, mes amis et collègues qui m'ont dit que c'était un pervers narcissique, parce que moi, j'y pensais pas au départ. Alors oui, et au tout début, c'était Non, mais tu mets pas de maquille pas parce que tu vas au boulot, ça sert à rien. Non, mais tu sors pas quand je suis pas là. T'as pas besoin de sortir, tu sors que quand je suis là. T'as pas le droit de te parfumer. Après, je n'avais carrément plus le droit de sortir, ne serait-ce qu'avec des collègues féminines, parce que, en ces mots, je partais me faire sauter parce que j'étais qu'une pute et une traînée. Et le soir, quand je partais en panaché, c'est-à-dire le bas habillé police et juste un t-shirt, et j'avais le malheur de mettre un peu de parfum, il me disait, ouais, c'est pour aller aguicher tes collègues et te faire sauter pendant la nuit. Mais ça devenait que ça. J'étais sa chose, sa propriété. Et je n'avais plus le droit de sortir. Et je me revois encore, parce que lui, quand il travaillait l'après-midi, il faisait 13h-21h. Et je me revois encore partir en cachette à Disney avec mes deux enfants pour qu'on passe la journée ensemble avec mes filles. Et revenir avant, enfin, on partait dès qu'il partait au boulot, et on revenait avant qu'il finisse le boulot parce que je voulais pas qu'il le sache. Et parce que même Disney, une fois, il a eu le malheur de savoir que j'étais allée à Disney avec mes enfants, et c'était aussi pour aller voir des mecs. Mais je comprends pas. Je comprends pas comment j'ai pu en arriver là, et comment j'ai pu le laisser faire, et pourquoi il est devenu aussi violent, parce que c'est pareil, il y a eu les coups physiques, mais moi ce qui me blesse le plus c'est les mots, parce que des coups physiques, un bleu, c'est ce que je dis, on s'en remet toujours, mais les coups de poing, maintenant, c'est maintenant que ça me revient, je me dis, mais c'était des coups de poing au niveau des tempes pour pas que ça se voie, c'était des coups de poing au niveau de la poitrine pour pas que ça se voie, et si j'avais un bleu qui apparaissait ou quoi, il était là pour me dire. De toute façon, si tu dis quoi que ce soit, je dis que tu t'es cogné, que tu t'inventes des conneries, que c'est contre toi, et puis voilà, quoi. Personne ne te croira, c'est ta parole contre la mienne.
On va continuer à évoquer ce qui a été votre quotidien de femme battue. Hein, vous qui étiez tous les deux dans la police, vous et votre conjoint. Et après une courte pause, on verra quelle est votre opinion quant à cet homme, savoir si vous considérez qu'il était malade, s'il devrait avoir des soins, en tout cas bénéficier de soins. On se retrouve dans quelques instants, Paula. À tout de suite.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Et nous sommes toujours avec Paula en ligne au 3921 qui est fonctionnaire de police et qui nous explique avoir vécu des violences conjugales, alors même qu'elle conseillait dans le cadre de son travail à des femmes qui passaient la porte des commissariats pour venir porter plainte et demander conseil à la fonctionnaire qu'elle était, et bien avoir vécu elle-même cette situation sans en restant, hein, en souffrant, en acceptant à un moment cette situation. À quel prix, Paula, puisque vous évoquez toute la douleur que vous avez pu ressentir à ce moment-là et l'attitude de votre ex-compagnon jaloux qui essayait de vous rabaisser dès qu'il le pouvait. J'évoquais avant la pause, ben voilà, en ce moment, les voix s'élèvent, on semble être enfin à l'aube d'une étude de notre système. En tout cas, quel système pourrait combattre ces violences faites aux femmes? Quel cadre législatif pourrait entourer ces violences? Souvent, en fait, ici, on parle du Canada, tout ce que les Canadiens ont fait pour cette cause. Et dans le programme canadien, on soigne les agresseurs. Qu'est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez que ça aurait été bon pour votre ex-compagnon d'être soigné? Est-ce que pour vous, il est malade, cet homme?
Il est malade, mais il s'en rend pas compte. Donc, le soigner, mais je lui dis, c'est toi qui as besoin de soins, parce que moi j'avais commencé une thérapie parce que j'allais vraiment pas bien, et il m'a dit, de toute façon t'es complètement folle, tu consultes des psys et puis tu prends des cachetons, et je lui dis, mais c'est toi qui as besoin de te faire soigner, parce que c'est toi qui est pas normal, ton attitude est pas normale, et tous les hommes dans ce cas-là, que ça soit homme ou femme, qu'ils soient violents, ne reconnaissent pas leur tort, ils reconnaissent pas être malades. Donc, je sais pas, ils accepteraient pas ces soins.
Ils seraient obligés. Je vous parle pas d'un choix, là. En fait, lorsque j'évoque le Canada, vous savez, Paula, c'est qu'à un moment, dans le cadre de violences conjugales, dont la justice s'est saisie, On oblige hein, les agresseurs à se soigner autrement, c'est la prison. Donc, clairement, pour vous, cet homme était malade. Il avait besoin de soins.
Oui, mais est-ce que l'obligation de soins fait que la personne accepte ce soin ? C'est ça que j'essaye de montrer, c'est que si l'homme est mauvais dès le départ, même s'il n'accepte pas, s'il ne reconnaît pas, s'il est dans le déni que c'est lui qui est malade et que c'est lui qui est violent et c'est lui qui ne va pas, même avec des soins, en consultant des psychiatres, des psychologues, en ayant des thérapies, cet homme-là se dira toujours « non mais c'est moi qui ai raison », donc il ressortira toujours pareil. Et je ne pense pas qu'on les gaffe de médicaments pour qu'ils se disent « ah ben ça y est, c'est moi qui suis pas bien », ils n'arrivent pas à le faire culpabiliser. J'ai vu des hommes et j'ai vu mon conjoint me dire « mais c'est ta faute si je te frappe, c'est ta faute, regarde où tu me fais arriver, quoi, à quel point j'en suis ».
Et vous disiez tout à l'heure que vous aviez fini par croire ça, hein ?
Ah oui, tout à fait. Et aujourd'hui encore, je ne suis pas reconstruite. Ça fait 6 ans et demi. 6 ans et demi que j'essaie de me reconstruire. 6 ans et demi que j'essaie d'accepter, mais non, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je ne sais pas combien de temps ça prendra.
La décision de justice, en tout cas, semblait compter énormément pour vous. Elle a eu une répercussion vraiment particulière dans le fait que vous n'arriviez pas à vous reconstruire. Le fait de ne pas avoir été reconnu comme victime, vous disiez tout à l'heure que ça avait été terrible pour vous.
Mais ça a été fatal. C'est ça, je pense, qui aujourd'hui fait que je n'arrive toujours pas à me reconstruire.
Et alors, qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas été reconnu comme victime, en fait ? Expliquez-moi.
Je ne sais pas. J'ai déposé plainte. J'ai été voir le médecin. Il m'a prescrit le nombre de jours d'ITT. Alors, sachant qu'au-dessus de 10... de 8, pardon, ça devient complètement délictuel, qu'il aurait dû avoir quelque chose. Et non, tout a été étouffé, l'affaire a été étouffée. Donc je sais que ça a été étouffé par la hiérarchie. Et je ne comprends pas. Donc je me dis, si moi, en tant que fonctionnaire de police, avec un conjoint qui est fonctionnaire de police et qui me fait ça, mais je n'arrive plus à dire aux femmes, mais venez, on vous ouvre la porte et puis la justice va faire son travail. Non, je peux dire à une femme, venez nous voir, oui, venez déposer plainte, faites le nécessaire, éloignez cet homme de vous. Mais je n'arrive pas à leur dire, mais on sera là pour vous protéger s'il y a besoin, parce que personne ne m'a protégée. Même pas moi, je n'ai pas su me protéger.
Et justement, quelle attitude vous aviez ? Parce que vous avez dit tout à l'heure ne pas en parler hein, autour de vous ?
Non, à personne.
Est-ce que vous vous êtes renfermé sur vous-même ? Est-ce que vous êtes esselé quelque part ?
Ah, bah, tout à fait, oui. C'est une honte. C'est honteux que d'être... là, je dirais, c'est honteux d'avoir honte. Mais c'est une honte. Et d'autant plus que lui, c'était le paraître, c'était le gentil fonctionnaire qui faisait tout bien carré, qui lui se permettait d'aller interpeller des gars qui mettaient une gifle à une femme. Et j'étais contente hein, pour ces femmes que ces hommes soient interpellés. Mais je me dis, mais comment est-ce qu'il peut faire la morale à ces hommes-là alors qu'il fait pire à la maison ? Ça, c'est de l'incompréhension totale. Je sais pas comment remédier, je sais pas comment guérir de ça, je cherche encore.
Bah c'est sûrement là où cet homme dysfonctionnait complètement, c'est que je pense que quand il arrêtait des agresseurs et qu'il leur faisait la morale, même jusqu'à être violent lui-même avec ses agresseurs, il avait sans doute, hein, je dis bien sans doute parce que je ne le connais pas, mais l'impression d'être la loi, hein, d'être monsieur
d'être
justice.
D'être le protecteur, ouais. Il jouait les protecteurs, oui.
Vous avez eu des enfants avec lui ?
Non, j'ai refusé. Je sais pas, c'est peut-être une voix, c'est peut-être un ange, quelque chose qui est passé et qui m'a dit, mais non, pas d'enfants avec lui. Et je crois que ça, c'est ce qui m'a sauvée parce que, alors, ça fait 6 ans et demi qu'on est séparés. Et là, j'ai appris cet été par mes enfants que sa fille, c'est pareil, il la frappait tout le temps. Parce que moi, forcément, je rentrais à 6h du matin, je dormais et je ne voyais pas ce qui se passait. Et mes filles m'ont dit, mais tous les jours, enfin, dès qu'elle était là, elle se prenait des branlées. Et c'était impardonnable, quoi. Mais je me suis dit, mais même ça, je ne l'ai pas vu. Et je sais qu'un jour, sa fille a pris une claque tellement forte qu'elle avait eu un bleu sur la joue. son ex-compagne a déposé une main courante pour dire qu'il avait été violent et il a été dénoncé par le médecin qui a soigné, qui a examiné la petite. Et même ça, quand je l'ai raconté dans ma plainte, ça n'a même pas été... Ils n'en ont pas tenu compte. C'était pour prouver que c'était vraiment un homme violent, que ce n'était pas pour moi la violente.
Comment est-ce que vous expliquez l'attitude de votre hiérarchie, à part le fait que peut-être que votre ex-compagnon était un bon fonctionnaire de police, qu'il faisait bien son travail, mais comment est-ce que vous expliquez, au-delà de ça, comment vous expliquez que votre hiérarchie ait fermé les yeux là-dessus ? Est-ce que c'est parce que c'est une hiérarchie composée d'hommes ?
Non, c'est pas forcément parce que c'est une hiérarchie composée d'hommes, mais c'est plutôt parce que c'est... Faut pas faire de bruit chez nous, faut pas ébruiter les problèmes dans la police, comme dans la gendarmerie, hein, je dirais. Donc imaginez-vous dire qu'une femme policière qui vit avec un policier est violentée et que rien n'est fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je témoigne, parce que je me dis qu'il n'y a pas, de métier, il n'y a pas de situation, il n'y a pas de classe, il n'y a rien qui empêche ces personnes violentes d'agir. Et si je parle aujourd'hui, c'est même pas pour moi, c'est pour essayer de sauver quelqu'un, de pas se mettre sous l'emprise de cette personne et ne pas croire qu'il n'y a plus d'espoir et que... Enfin, d'essayer de se libérer avant d'en arriver à un point de non-retour.
Justement, qu'est-ce que vous n'avez pas fait, vous, Paula, à l'époque ?
J'ai pas su ouvrir les yeux, j'ai pas su partir et j'ai pas su me défendre. J'ai encaissé les coups.
Et pourquoi ça, à votre avis, maintenant, avec du recul ? Pourquoi ? Vous l'analysez comment ?
Je l'analyse du fait qu'il m'a tellement monté la tête, tellement rabaissé, tellement humilié, que j'ai fini par croire tout ce qu'il m'a dit. Et même quand il me disait « Mais qu'est-ce que tu crois ? Pourquoi je suis avec toi ? Personne ne comprend pourquoi je suis avec toi. Les collègues ne comprennent pas. Tu crois que tu as des amis, tu n'as pas d'amis. » Et tout ça, j'ai cru. Donc vous vous dites « Mais je suis avec la seule personne qui m'aime. »
Et qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui que vous vous reconstruisiez, que vous alliez mieux, puisque vous évoquiez... que ça n'était pas toujours terrible là, que ça n'allait pas bien.
Aujourd'hui, je continue avec le MDR, je continue à être suivie par psychiatre et psychologue, je continue cette thérapie, j'ai envie de faire de ce que j'ai vécu, non pas un souvenir douloureux, mais juste un passé qui me serve de leçon. Mais je sais qu'aujourd'hui, ça me sert de leçon parce que je ne donne aucune chance à personne. Plus personne n'a le droit de lever la main sur moi et plus personne n'a le droit de me donner des ordres autres que légitimes, bien sûr, mais personne ne se mêle de ma vie. C'est ma vie maintenant.
Ça a changé votre rapport aux hommes aujourd'hui ?
Oui.
Ouais. Comment est-ce que vous les regardez, les hommes, alors ?
Je me méfie. Je me méfie et c'est terrible parce que Vous pensez voir quelqu'un et vous imaginez que ce quelqu'un peut devenir comme l'autre parce qu'il était tout mielleux au départ. Il était tout gentil avec moi, très attentionné. Et il s'est tellement vite transformé que j'ai peur de redevenir aveugle.
On voit en tout cas combien, encore une fois, on entend les mêmes mécanismes, les mêmes mots, hein, les mêmes stratégies mises en place par ces hommes qui... comme vous le disiez, Paula a été totalement respecté et respectueux et un peu exemplaire à l'extérieur, comme votre ex-conjoint. Et qu'une fois rentré à la maison, il se transformait en bourreau. Et combien, même en tant que fonctionnaire de police, il a été difficile pour vous de conseiller des femmes. Mille merci pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1, Paula. Et puis je vous souhaite plein de courage pour la suite. Vous êtes sur le chemin quand même, je le sens. D'accord ?
Merci à vous, Olivier.
Bonsoir, Paula.
Bonne soirée. Au revoir.
Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 739 21, 75 centimes plus coût du SMS.